Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 12h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Des représentants de la population de l'Ituri s'engagent à accompagner le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion d'ex-combattants. Engagement pris devant le gouverneur de province, Johnny Luboyankashama. C'était au cours d'une réunion sur le processus de paix. Plus de 100 familles sont sans abri. C'est le bilan de la pluie qui s'est abattue mercredi soir sur la cité de Lubao dans la province de Lomami, où les toitures de plus de 50 maisons ont été essoufflées. Notre invité, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Kassim Tiagné, a ouvert hier à Bukavu un atelier en vue de renforcer les capacités des membres du gouvernement provincial du Sud Kivu. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Paul Badianyama. Les représentants des différentes couches de la population de la province de l'Ituri s'engagent à accompagner le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion d'ex-combattants. Ils l'ont dit mardi devant le gouverneur, le général Johnny Luboyankashama. C'était au cours d'une réunion sur le processus de paix pour le caucus des parlementaires de cette province. Il faut une mobilisation totale pour la réussite de ce processus, qui constitue selon eux la dernière chance afin de pacifier la province longtemps meurtrie par des conflits armés. À Bounia, Martial Kizabiamungu.
Des notables de différentes communautés, les confessions religieuses, des structures féminines et de jeunes, mais aussi des députés nationaux et provinciaux, tous ont pris part à cette rencontre. L'objectif était de réfléchir ensemble sur les moyens d'accompagner les processus de paix en Ituri à travers le programme P22RRCS, qui sera bientôt opérationnel dans cette province.
Nous allons accompagner le programme DDRCS afin que la paix revienne finalement en Ituri.
Il y a déjà un bon nombre de groupes armés qui sont prêts pour adhérer au processus de paix.
Les présidents du caucus de parlementaires de l'Ituri estiment quant à lui que seules les armes ne peuvent terminer une guerre. Il y a aussi la parole, la communication dans le cadre du programme de la démobilisation et réinsertion.
Nous les parlementaires, nous sommes déjà mis à la disposition du Parlement et même du gouvernement pour sensibiliser les groupes armés locaux qui détiennent les armes afin qu'ils puissent accepter le processus de DDRC.
Pour les gouverneurs de province, le général Johnny Luboyankashama, il faut aussi et surtout reconstruire la confiance entre les gouvernants et les gouvernés pour une paix durable. Bounia, Martial, Kiza, Biamungo, Radio Okapi.
On reste en Ituri où la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans une dizaine de villages situés le long du tronçon Bounia-Komanda qui était souvent la cible des attaques des miliciens de la force de résistance patriotique de l'Ituri en territoire du Rumu. De nombreux déplacés ont dû regagner leur village et les véhicules circulent même la nuit. C'est ce qu'affirment des sources concordantes. Selon les mêmes sources, c'est le résultat de l'état de siège. Des précisions avec vous, Isaac Remoyope.
C'est depuis quelques semaines qu'une accalmie s'observe dans les chefferies des Andisoma, Mobala, Basili, qui regroupe des dizaines de villages le long de la route Bounia-Komanda. Les exactions des miliciens de la FPIC sont rares, ce qui a permis à de nombreux habitants qui avaient fui les atrocités de ces groupes armés de regagner leur milieu. Il s'agit notamment des Olu, Makayanga, Ndoya, Sililo, Marabo, Irumu et Kombokabo. Ils vaquent librement à leurs occupations. Le président de la société civile du territoire d'Irumu, Gili Gotabo.
Ce qui montre que la situation s'est améliorée parce que la population sont en train d'évacuer leur occupation sans aucun doute. Il y a des jeunes gens qui partent creuser de l'or, qui partent cultiver leurs champs.
Les conducteurs des motos et les chauffeurs circulent librement la nuit et les jours sans être inquiétés. L'un d'eux exprime sa satisfaction.
Pour le moment, la route est sécurisée, donc la sécurité est assurée. Pas de dérangement, pas d'attaque. Nous constatons que c'est le résultat de l'état de siège.
Cependant, ils demandent au gouvernement de pacifier complètement la région car les miliciens de la FPIC n'ont pas encore déposé les armes. Le porte-parole des FARDC rassure que les opérations militaires se poursuivent pour restaurer l'autorité de l'État partout. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, une vive tension a prévalu hier mercredi après-midi au chef-lieu du territoire de Lubero, à la base de jeunes qui avaient trouvé suspect que 3 personnes soient transportées dans un gros récipient d'eau en plastique placé au-dessus d'un minibus en provenance de la ville de Goma. La police nationale a dû intervenir urgemment pour disperser les jeunes. Le récit de Grévis Salumou.
C'était une colonne de 6 véhicules transportant chacun un gros récipient en plastique servant à recueillir les eaux des pluies à usage domestique. Les 5 premiers véhicules ont réussi à passer sans attirer la curiosité. C'est le tout dernier qui n'est pas passé inaperçu. Des personnes ont été aperçues à l'intérieur de ces vases suspendus au-dessus des véhicules. Le caractère extraordinaire de ce mode de transport des passagers a alerté le public et des jeunes ont commencé à pourchasser les bus. La police a dit tirer en l'air pour disperser la foule, indique le bourgmestre de la commune rurale de Lubero. Joseph Balikoucha affirme que le véhicule a été arrêté par la police. Il était rempli de cartons de poissons surgelés ainsi que 10 chèvres, indique l'autorité communale. Son chauffeur et les 3 personnes retrouvées dans les récipients ont été placées en garde à vue. L'administrateur du territoire de Lubero confirme l'information. Le colonel Donan Ndamandonga appelle la population de son entité au calme. Ces personnes arrêtées sont auditionné par les services de renseignement à nos styles. Boutembo, Grévis Salumou, Radio Okapi.
Début hier mercredi après-midi à la cour militaire du Nord Kivu du procès de quelques officiers de la 34e région militaire. Ils sont poursuivis pour tentative de corruption de la délégation de l'inspection générale des FRDC venue de Kinshasa afin d'enquêter sur les détournements présumés de fonds alloués aux opérations militaires pendant l'état de siège. À l'issue de la première audience d'hier, la cause a été renvoyée au 28 septembre sur demande du conseil des prévenus. Le compte-rendu à Goma de Gabriel Omen.
Était appelé à la barre ce mercredi le lieutenant-colonel Ngoy Katenga Jerry, chef de bureau rémunération de la 34e région militaire, et son adjoint le capitaine Alimas Touma Bienfait, poursuivi pour infraction des tentatives de corruption, en croit le ministère public. C'est lors du contrôle initié par l'inspection générale des FRDC sur la gestion des fonds alloués aux opérations militaires en cours dans la province que ces officiers auraient tenté de corrompre la délégation venue de Kinshasa au mois de juin dernier. La somme proposée à la dite délégation était estimée à 15 millions de francs congolais. Après l'identification des prévenus devant les juges, le président de la chambre, le lieutenant-colonel Tumunachin Chang, a succédé à la lecture des préventions mises à charge des prévenus. Pendant que les juges voulaient continuer l'instruction de l'affaire par l'audition des prévenus, une discussion en droit est survenue. C'est lorsque le conseil des prévenus a soulevé quelques exceptions avant la poursuite des audiences. À la suite de la demande du conseil des prévenus, la prochaine audience a été renvoyée au vendredi 29 septembre 2021 à 9h. Goma, Gabriel Wameya, Radio Okapi.
Dégâts de la pluie à Lubao dans la province de Lomami. Plus de 100 familles sont sans abri actuellement dans la cité de Lubao. Le président de la société civile locale affirme que la pluie torrentielle qui s'est abattue mercredi soir sur la cité a emporté les toitures de plus de 50 maisons. L'administrateur du territoire parlait d'une catastrophe naturelle et promet de faire rapport à sa hiérarchie. En Bujimaï, Esther Ndalafina.
D'après Crispin Lumami, président de la société civile de Lubao, le bilan avancé est encore provisoire car les maisons continuent à s'écrouler ce jeudi. Crispin Lumami dit être victime de cette pluie et demande aux autorités d'assister la population de Lubao.
Il a plu vraiment une catastrophe, c'est plus de dégâts matériels. Même ma maison, une partie est emportée par la pluie. Alors nous demandons si le gouvernement Lubao, on l'a jamais assisté, nous sommes comme une partie. Et la République du Congo qui est à part, qui est soustrait. Il y a beaucoup de dégâts matériels, des grands bâtiments, tout ça, croulés. Nous sommes vraiment dehors.
L'administrateur du territoire dit avoir dénombré une trentaine de maisons écroulées. Kasongo Lukengu promet de faire rapport à sa hiérarchie, étant donné que le territoire n'est pas décentralisé.
En tout cas, chez moi, la résidence, la toiture de la résidence du CPANL est partie. La toiture de la résidence du chef de bureau du parti est partie, mais beaucoup de maisons, en tout cas, les églises, les taux de bonnet.
Signalons que depuis cet incident, aucune assistance n'est disponible pour soutenir les familles victimes. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Et puis, une semaine après le passage d'un vent violent qui a soufflé sur le village de Chipukwa dans le territoire de Kalima, les écoles qui ont été détruites ne connaissent toujours pas le moindre début des travaux de réhabilitation. D'après le ministre provincial de l'éducation du Haut-Lomami qui livre l'information, à l'approche de la rentrée scolaire qui se profile, les élèves ne seront pas étudiés, d'où l'appel qu'il lance au gouvernement central et aux principaux partenaires. Ngoï Wesley a été joint par Jean Gandou.
Oh, il y a Chipukwe, un vent violent, il a fait beaucoup de dégâts là-bas. Il y a des écoles primaires écroulées, il y a une école secondaire partiellement détruite. Alors, il y en a d'autres qui ont été sauvés de justesse parmi les nombreuses écoles qui sont là. Et il y a des familles qui ont commis des accidents graves parce qu'il y a des maisons qui sont écroulées sur quatre familles. Les gens de futur, mais s'il n'y a pas une espèce d'enrichissement, la population s'est mobilisée pour sauver ce qui vit dans les décombres des maisons. Et finalement, on vient à mettre, parce que bientôt c'est la rentrée scolaire, pour que les enfants retrouvent là où ils peuvent venir, et lancer un appel pathétique au gouvernement central, pour que l'on intervienne, et à tous nos partenaires, que l'on intervienne pour que ces écoles soient reconstruites rapidement, pour que les enfants à la rentrée avoir la
paix. Ces écoles ont au moins quel effectif?
Bon, je crois que c'est une centaine d'enfants.
Autre nouvelle, à Kananga, les expulsés d'Angola reçoivent une assistance de United Methodist Committee of Relief. Plus de 400 personnes ont bénéficié hier mercredi après-midi des vivres et des non-vivres de cette structure d'aide de l'église méthodiste unie au Congo. Ils ont reçu notamment des sacs de riz, de manioc, de haricots, l'huile végétale, les savons et les pagnes. D'après le coordonnateur national de cette structure, le souci est de répondre efficacement aux besoins urgents de ces personnes vulnérables. Émile Odimba est au micro de François Kadima.
Vous avez un cas d'urgence. La première des choses, c'est donner à manger aux gens. De quoi se nourrir et se protéger, parce que parfois, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de couverture, ils n'ont pas d'état. Les choses que nous leur donnons, c'est pour un mois, c'est pour la survie d'un mois. Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires pour que nous puissions les accompagner autrement, c'est-à-dire les aider à s'autosuffire. Par exemple, en faisant de l'agriculture, s'ils peuvent avoir des champs de maïs, le maïs va produire, ils peuvent vendre, ils peuvent manger. Alors là, ils auront des moyens pour un peu d'argent pour acheter d'autres choses. Que attendre de vivre des partenaires un mois, ils reviennent à la case de départ. Nous sommes en train de discuter avec eux, de les accompagner autrement, c'est-à-dire de les aider à se prendre en charge eux-mêmes. Donc si nos partenaires nous acceptent, nous pouvons les accompagner ou éventuellement les aider à construire des petites huttes. Là, ils seront en sécurité.
Signalons que cette assistance est la troisième du genre donnée par UMCOR à ces expulsés de l'Angola revenus au pays il y a 2 ans et installés sur les sites appelés Nkoko dans la ville de Kananga. Autre nouvelle, sur Radio Okapi, les députés provinciaux en plaidoyer chez Christophe Mbosoko Diapuanga pour leur réinsertion dans le budget national. Une vingtaine de députés provinciaux représentant 26 provinces de la RDC étaient hier mercredi à l'Assemblée nationale. Objectif, soumettre au président de l'Assemblée nationale la question de leur insertion dans le budget national. Notez que ces élus ne sont pas payés depuis plus de 8 mois. Michel Kefindangoy.
Au sortir de leur audience avec le président de l'Assemblée nationale, le chef de la délégation des députés provinciaux des 26 provinces espère voir l'autorité budgétaire, qui a déjà réceptionné le budget du gouvernement central, s'impliquer pour que cette fois-ci, les assemblées provinciales soient aussi prises en compte par le budget 2022, bientôt sous examen à la Chambre basse du Parlement.
Nous sommes les assemblées provinciales, nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour poser notre problème. Lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît, c'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement centrale a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous sommes venus le voir, pour lui dire que les députés de provinciaux qui ont toujours été oubliés soient cette fois-ci insérés dans le budget national. Il a été très attentif envers nous. Il dit qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale.
Notez que ces députés provinciaux accusent 8 mois d'arriéré, soit de février à septembre 2021, qui n'ont pas touché leurs émoluments. Ces députés provinciaux justifient ces retards de paiement par la non-prise en compte des assemblées provinciales dans le budget national.
Actualité internationale.
L'Algérie a décidé de fermer son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. Dans un communiqué de la présidence, l'Algérie a rappelé hier avoir rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en l'accusant d'actions hostiles après des mois de tensions exacerbées entre ces deux pays rivaux du Maghreb. Et puis au Soudan, les réactions suscitées par le coup d'État manqué de mardi dernier attribué par les autorités à des partisans de l'ancien président déchu Omar el-Béchir jette une lumière crue sur les fragilités de la transition au pays. Elle illustre notamment les divisions qui demeurent actuellement entre les civils et les militaires chargés de la mener à son terme.
L'invité.
La MONUSCO Sud Kivu renforce les capacités de la nouvelle équipe gouvernementale de la province du Sud Kivu. C'est ce qui justifie l'ouverture hier mercredi à Bukavu d'un atelier de 3 jours. Un thème choisi, bonne gouvernance pour un Sud Kivu pacifié et prospère. Les assises ont été ouvertes par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Kassim Diagne, revient ici sur d'autres questions d'actualité dont le plan de retrait progressif de la mission onusienne. Il est l'invité de Radio Okapi. Il s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Monsieur Kassim Diagne, bonjour.
Bonjour.
La MONUSCO organise un atelier de renforcement des capacités des membres du gouvernement provincial. Pour quel objectif? Pour quel but?
Comme vous le savez, le gouvernement provincial vient d'être mis en place il n'y a pas très longtemps. Et nous avons jugé qu'il était important avec le gouverneur de province, le vice-gouverneur de province, d'organiser cet atelier afin d'échanger sur le mandat de la MONUSCO et ce que nous sommes en train de faire comme soutien à l'action du gouvernement aussi bien central que provincial. Comme vous le savez, beaucoup des ministres de ce nouveau gouvernement sont nouveaux. C'était juste pour des échanges de rafraîchissement, de discussion, parce que notre partenaire principal demeure le gouvernement provincial, et surtout dans cette phase où on est en transition. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous venons de conclure avec le gouvernement le plan de transition pour le retrait responsable, graduel et ordonné de la MONUSCO. Donc il était important de commencer à réfléchir ensemble avec le gouvernement provincial sur ces jalons qui ont été identifiés entre le gouvernement et la MONUSCO, que ce soit dans le domaine de la protection des civils, des droits humains, des opérations conjointes entre nos forces, les forces de la MONUSCO et les forces armées congolaises, que ce soit dans le domaine de la réforme de la police nationale. Tout l'accompagnement, en fait, qu'on est en train de faire, donc je crois que ce séminaire tombe à point nommé et je suis sûr qu'à la fin des travaux, nous allons pouvoir dégager des pistes de travail et de partenariat, de renforcement du partenariat, parce que ce partenariat existe déjà.
Comment aujourd'hui jugez-vous la collaboration MONUSCO-gouvernement provincial au Sud Kivu, surtout en matière de sécurité?
La collaboration est excellente. Et d'ailleurs, j'aimerais ici attirer l'attention sur le discours que vient de prononcer hier soir le chef de l'État congolais, le président Félix Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, où il a encore magnifié la coopération exemplaire qui existe entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Et ça se traduit à tous les niveaux, pas seulement au niveau de Kinshasa, mais au niveau des provinces, et particulièrement ici dans le Sud Kivu, où nous avons une administration sous l'autorité du gouverneur et du vice-gouverneur qui sont vraiment à notre disposition. À chaque fois que nous avons besoin de travailler, nous travaillons avec eux. Donc la coopération est excellente à ce niveau-là.
Au sortir de ces assises, qu'est-ce que vous attendrez des membres du gouvernement du Sud Kivu?
Alors, d'abord, une meilleure compréhension, je crois, de notre mandat, une meilleure approche sur les choses que nous pouvons faire ensemble, mais surtout, pour moi, c'est comment est-ce que le gouvernement provincial va s'approprier certaines des activités que nous sommes en train de mener pour eux et qu'ils vont devoir s'approprier dans cette phase de transition. Je crois que c'est extrêmement important de le dire et je me réjouis d'ailleurs qu'au cours des petites discussions qu'on a eues tout à l'heure, qui sont juste préliminaires, qu'on a agréer l'idée de créer des petits comités techniques qui vont pouvoir donc réfléchir sur les jalons de la transition pour en fait refléter un peu le travail qui se fait au niveau national. Et je témoignais en tout cas à tout le monde, aux gouverneurs, aux vice-gouverneurs, à tous les ministres, que nous sommes entièrement à leur disposition pour les accompagner.
Quid du retrait progressif de la MONUSCO au sud Kivu, qu'est-ce que nous pouvons retenir?
Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, ce retrait n'est pas immédiat. C'est un retrait, comme nous l'a conseillé, ordonné le Conseil de sécurité, responsable, ordonné et graduel. Et comme je l'ai dit, nous avons déjà agréé 18 jalons pour la transition. Il y a à peu près 5 ou 6 jalons qui sont vraiment immédiats pour la province du Sud-Kivu. Surtout l'environnement sécuritaire, il faut que ça s'améliore. Il y a le jalon sur le programme de désarmement et démobilisation qui est extrêmement important. Le jalon sur la réforme et l'appui au secteur de la justice, au secteur de la sécurité. Il y a le jalon sur la lutte contre les violences des droits de l'homme, et surtout les violences sexuelles. Et enfin, le jalon sur, en fait, l'accompagnement de la réforme institutionnelle, en tout cas, que les autorités mènent ici avec brio.
Monsieur Kassim Diène, je vous remercie.
Je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi ce midi, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Kassim Diagne, était interrogé par Rachel Kiesembangu à Kinshasa. Il est 12h20. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté infiniment. Merci à Pélékipé Lamondo qui m'a accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.
Capisport.
Bonjour amis sportifs, bienvenue à ce journal des sports sur Radio Capi, à la présentation Kanishi Mukongo Fanekizi. Nous commençons par les championnats nationaux de football, Ligue 1. On joue cet après-midi deux rencontres au stade Frédéric Basamaliba de la commune de la Kenya à Lubumbashi. Le football club Lubumbashi Sport, l'équipe locale, croise Sa Majesté Sangabalen de Mbujumayi et puis... Dans l'autre rencontre, c'est la jeunesse sportive Groupe Bazano qui fera face à la formation des Blessings des Kolwezi. Hier, mercredi, il y a eu une seule rencontre, celle qui a opposé au stade Dominique Dior de Kolwezi la formation des Simba qui était tombée devant son hôte dans un club Motema Pembe DCMP de Kinshasa. C'était donc à la 75e minute que Jean-Marc Makusu Mundele avait ouvert le score pour les Kinois. Le deuxième but des Umakile était arrivé dans les arrêts de jeu signé Stevie Mubele. Score final 2-0 pour DCMP. Pour les coachs Alain du DCMP, la première période a été fort disputée.
Dans la première mi-temps, on est tombé contre une jeune équipe et une équipe bien organisée. Et on s'est neutralisé parce que au niveau tactique, ils étaient en 4-4-2. Nous, on était en 4-2-3-1. Ça fait qu'il y avait une bataille dans le milieu de terrain avec eux, ils avaient deux récupérateurs et nous, on n'avait qu'un seul 10, qui est Karim Kimvudi. Vous avez vu qu'on a fait rentrer le deuxième 10 qui est Stevie Mundele. Et une fois que Stevie est rentré, ben, on s'est plus retrouvé dans notre style de jeu. On les a beaucoup plus pressés, beaucoup plus haut. On les a étouffés dans leur zone médiane. Et ça nous a permis aussi de développer un meilleur jeu. Donc je crois aussi que, comme vous avez dit, l'expérience et l'état d'esprit physique, la préparation physique a primé quand même, je crois. Parce qu'on a vu quand même une équipe adverse dans le cas de Simba qui était fatigué déjà en première mi-temps et je crois que nous dû à une très bonne préparation physique et à beaucoup d'expérience on a pu émerger en cette fin.
Mais pour Omer Mbayo de Simba, il y a deux erreurs qui arrivent parfois dans une rencontre.
Vous avez vu en première mi-temps le match était 50-50. En deuxième mi-temps il y a eu des fights quelque part. Il y avait manque de concentration sur le plan défensif et sur le point de la médiane. Ce n'est pas la première fois qu'on voit le score de 2-0. Donc, j'accepte sportivement la défaite. Quand il y a une défaite, c'est l'entraîneur. Mais il y avait certains bobos surtout la sortie de mon avant-centre de soutien là, il nous a vraiment compliqué sur le plan tactique.
Deux propos recueillis par nos confrères de la direction de communication de la Ligue de foot au Grand Katanga. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, le match entre la RDC et Madagascar comptant pour la troisième journée aura lieu au stade Tepe Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. La Fédération Internationale de Football Association FIFA a maintenu l'embargo sur le stade des Martyrs de Kinshasa. Frédéric Kitenge Kinkumba, secrétaire général de Tupisa Mazembe, a annoncé que la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA a formulé sa demande pour que le match entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les homologues de Madagascar se joue au stade Tepe Mazembe de la commune de Kamalondo. Une demande à laquelle a répondu positivement les comités de Tupisa Mazembe qui s'est d'ailleurs engagé à organiser cette rencontre dans le respect des normes. Alors que pour le ministère des Sports, la visite de l'inspecteur de la CAF était concluante à tous les points car il était satisfait et étonné des efforts fournis par le gouvernement de la RDC. Dans la lettre de la FECOFA à la CAF, c'est le stade des Martyrs qui a été choisi car ne pouvant pas continuer à demander les stades à un privé. Football féminin. On parle du mondial de moins de 20 ans Costa Rica 2022. Les Léopards d'âme de la RDC jouent dimanche prochain. Ça sera face aux Lions Indomptables du Cameroun pour les comptes du deuxième tour aller. Le lieu du match n'a pas été encore précisé, mais au premier tour, les dames s'étaient produites au stade Tepe Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Pour cette première opposition, le sélectionneur national Andy Magloire Futila a dévoilé la liste des 32 joueuses présélectionnées depuis le 18 septembre dernier. Entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin, en jeu ce jeudi, le Racing Club Bumbu croise Puy au terrain PNC de la commune de Lemba dans le cadre de la deuxième journée. En deuxième match, AC Kayolo reçoit Ange Vert, RC Impact sera opposé à Saint-Christian. Au terrain Ujana, au stade Père Raphaël de la Kétule, dans la commune de Kalamu, AC Lokolomoto affrontera ASPJSK. Espérance sera à l'épreuve face à Olympic Club de Kinshasa Osaka. Après cette rencontre, TP Le Croyant clôturera sa deuxième journée face à AC Ujana. Un sport de combat, la boxe. La Fondation Junior Ilunga Makabu s'est dit disposée à collaborer avec l'Action humanitaire en République démocratique du Congo pour promouvoir la paix par le sport. C'est ce qui est ressorti de la rencontre d'hier mercredi au fleuve Congo Hotel entre les champions du monde de boxe, les Congolais Junior Ilunga Makabu et la nouvelle coordonnatrice humanitaire adjointe en République démocratique du Congo, Madame Susanna Talek. Cette occasion a été aussi bonne pour Junior Ilunga Makabu de fixer l'opinion sur ses prochain rendez-vous pugilistique.
Moi, je suis quelqu'un qui aime mon pays. C'est grâce à cette volonté-là qu'aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui que le championnat du monde, ce titre est resté au pays pendant longtemps, 2 ans aujourd'hui, le monde est chez nous. C'est-à-dire, je suis prêt à pouvoir accompagner ce qu'ils sont en train de faire pour que la paix soit au pays. Parce que ce que nous cherchons, c'est la paix. Ce que nous voulons est que notre pays puisse vivre la paix.
Parler ceinture, puisque nous avons gardé ça depuis 2 ans, quel est les prochains programmes?
Je fais la défense volontaire et j'ai la défense obligatoire que je dois faire d'ici là. C'est pour cela que nous sommes tentés de voir par quels moyens, ensemble avec le président de la Fédération de boxe, pour voir comment nous pouvons avancer afin que je puisse un peu livrer encore un combat. Je tout fais pour que la boxe reprenne au pays. Parce que c'est depuis Mohamed Ali, il n'y a jamais eu de grande compétition comme celle que nous avons amenée au pays. C'est-à-dire, nous allons voir ensemble avec la présidence et le président comment nous pouvons faire.
Des propos recueillis par Dieudonné Joseph Kabeyangalula. C'est sur cette information que nous mettons point final à ce journal des sports sur les antennes de Radio Okapi qui vous a été présenté par Kanishi Mokongo Fanikizi. Merci de l'avoir suivi.